Bon, merci Marie pour cette présentation, pour cette invitation, et merci à vous d'être présent. Donc on m'a proposé, c'est assez sympa parce que c'est un sujet que je connais bien, de parler de la biographie. Mais en fait, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a beaucoup de choses disponibles sur ce sujet. Donc j'ai décidé de la prendre un peu à rebours ou à revers et de vous proposer de réfléchir à ce que je n'avais pas compris en écrivant la biographie. Et donc tout part de mon titre et va être le dépli de ce titre hein, qui m'est venu comme une intuition au moment où Claude, je crois, m'a demandé de donner un titre pour cette intervention. Et donc ce titre, c'est « L'incompris de la biographie, de point la peur ». Et je vous expliquerai en fin de parcours comment ce titre m'est venu et pourquoi j'y tiens. Je tiens à ce titre, il me frappait comme quelque chose de... comme une ritournelle, comme quelque chose de puissant. Bon, excusez-moi, ça fait un peu immodeste, enfin disons que j'avais cette phrase « L'incompris de la biographie, de point la peur ». Et c'est de ça que je vais parler. Donc, évidemment que dans la discussion qui va suivre, je peux répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, que vous avez envie de me poser sur la biographie. Mais en réalité, ça va être une conférence sur la peur. Donc, comme je le disais à l'instant, ce titre me permet d'aller à rebours hein, de la démarche biographique, parce que la démarche biographique, c'est une démarche de compréhension, en tout cas d'un effort de compréhension. Compréhension d'ailleurs dans plusieurs sens du terme, à la fois de saisie intellectuelle, de totalité aussi, enfin plus ou moins, mais disons quand même, il y a une ambition de ce type, de l'embrassement, et d'une forme de connaissance compréhensive, hein, c'est-à-dire dans ce sens de compréhensif, au sens d'empathique, voire de complice ou d'indulgent. Donc l'incompris, dans mon titre, c'est ce qui résiste à toutes ces formes de compréhension, à la fois la saisie intellectuelle et peut-être l'empathie. Encore faut-il voir comment hein, et jusqu'à quel point. Donc premier dépli, l'incompris de la biographie, la peur, c'est la peur de l'incompris. C'est la peur subjective de ne pas comprendre, la peur de laisser échapper, voire d'échapper ou de laisser échapper tout. Une autre peur qui est assez proche, en tout cas qui est tout aussi subjective, c'est la peur de ne pas être comprise. Donc de ne pas être comprise dans la compréhension, dans la compréhension par les lecteurs notamment. Mais l'incompris de la biographie, la peur, c'est aussi la peur en tant que ce qui n'est pas compris. Donc une sorte de peur objective, hein, là on quitte le terrain de la peur subjective, une sorte de peur objective comme ce qui n'est pas compris. Et je dois dire que l'insistance de Barthes sur la peur reste ou restait, hein, parce que depuis j'ai travaillé, ce qui se dérobe ou se dérobait à ma compréhension après avoir travaillé plusieurs années sur lui et surtout après avoir écrit, hein, parce qu'il y a un certain nombre de choses que l'on ne comprend pas en travaillant et puis qu'on comprend en écrivant. Ça s'est produit pour moi, par exemple... s'agissant de la pensée du neutre, de la puissance du neutre ou d'une certaine disposition de l'amour filial. Ce sont des choses qui ont été comprises dans l'écriture hein, plus que dans le travail. Hein. Si on peut séparer les deux, bien sûr. Donc c'est des choses qui ont été comprises dans l'après-coup, hein, dans la façon qu'a l'écriture de libérer ou de révéler en nouant les termes d'une manière particulière. Donc certaines choses, mais pas la peur. La peur a continué à se dérober à la compréhension, même dans l'écriture. Et c'est donc cette peur comme objet qui va me retenir ici, la peur de Barthes ou la peur chez Barthes, plus que la mienne donc. Même si j'espère rencontrer à un moment du parcours la peur subjective de ne pas comprendre ou de ne pas être comprise. Et en fait, je la rencontre d'emblée, car mon retard ou ma lenteur dans la compréhension de ce problème rejoint déjà une des peurs de Barthes. une peur qui est énoncée dans le cours sur le neutre et qui est la peur de ceux qui sont trop rapides à comprendre. Hein, il dit ceux qui ont la comprenette rapide. C'est lors de la séance sur le sommeil où il cite une phrase de Gide sur la lenteur qu'il met à se réveiller et la lenteur qu'il met à comprendre et qui illustre ensuite une réflexion des cahiers de la petite dame. Le plus souvent, il comprend avec un grand retardement. Et le commentaire de Barthes est le suivant. Le retard à comprendre, ne pas le mettre dédaigneusement au compte de la déchéance physique, comme si c'était bien et normal de comprendre vite, tout de suite. Peut-être qu'il faut un temps pour comprendre, sorte de temps divin, passage juste, parenthèse, délicat, lent, bienveillant, d'une logique à l'autre, d'un corps à l'autre. Et ensuite, il y a cette phrase qui me fascine. Si je devais créer un dieu, je le doterais d'une comprenette lente. Si je devais créer un dieu, je le doterais d'une comprenette lente, sorte de goutte à goutte du problème. Les gens qui comprennent vite me font peur. Voilà. Donc cette étrange fiction qui effectivement me fascine, si je devais créer un dieu, et cette non moins étrange supposition, hein, je le doterais d'une comprenette lente. Donc cette étrange hypothèse d'une religion sans peur est sans doute une clé ouvrant une des portes de l'explication. Au moment où j'écris cette phrase, je ne le sais pas encore, mais finalement, au bout de la réflexion, je peux le dire. Donc, on peut dire d'emblée que j'ai fait preuve, en ne comprenant pas la peur, d'une non-compréhension compréhensive ou d'un retard bienveillant. Mais voilà, après ce préambule, il est temps de commencer en disant, en parlant d'abord de ce que j'appellerais la peur de quelque chose. Il y a une peur de quelque chose et puis une peur sans objet chez Barthes. Et donc, je vais aller de l'une à l'autre. On pourrait le dire autrement, on pourrait dire qu'il y a des peurs et il y a la peur. Donc la peur de quelque chose est multiple, variable, répétée, et donc elle se dit au pluriel. Et puis il y a la peur sans objet qui, elle, se dit au singulier. Alors dans le premier registre, hein, je l'évoque, mais en fait celui-là reste de l'ordre de la compréhension. Hein, la peur de quelque chose, c'est quelque chose qu'on comprend parfaitement. C'est important de passer par là pour rejoindre l'autre peur plus difficilement compréhensible. Donc de quoi Barthes a-t-il peur ? Donc je vais faire une liste hein, que j'ai ordonnée en fonction de quelques domaines, enfin vous allez l'entendre, hein, peut-être de territoire de la peur, on pourrait dire. Donc Barthes a peur, premièrement, de la répétition, de relire ses livres, ça revient plusieurs fois, de ne pouvoir échapper aux stéréotypes, c'est constant, de l'aphasie, de n'avoir plus rien à dire, de dire vieux, de dire faux, de dire bête. À chaque fois, ces syntagmes sont précédés de la peur de, hein, la peur de l'aphasie, la peur de dire vieux, la peur de dire faux, etc. Dans un autre registre ou sur un autre territoire, Barthes a peur de la jalousie, d'être jaloux, de la délibération. Ça, vous entendez que ce sont des peurs qui sont dans fragments d'un discours amoureux. Des rumeurs, de la scène, du théâtre, des fuites de la subjectivité, d'être déplacé, d'être seul. Encore un autre registre, en tout cas je l'ai découpé aussi comme un territoire. Barthes a peur de sa propre destruction, de mourir, du langage, de son langage, du mot. Barthes a des peurs nocturnes. Enfin, Barthes a peur d'écrire, de ne pas écrire. Alors, on le voit, même si ces territoires sont distincts, en même temps, il y en a qui se recoupent. Hein, j'ai choisi de séparer la peur du langage de la peur du stéréotype, par exemple. Hein, on pourrait en discuter. Les peurs sont liées au rapport du sujet à son corps, à son langage, au fait de ne pas pouvoir toujours les habiter entièrement, ou de ne plus les habiter du tout, dans l'amour, dans la jalousie, dans la mort. Elles sont liées au manque, l'aphasie, ou à l'excès, la scène, le théâtre, donc au trop ou au trop peu. Et en même temps, ces peurs sont une forme de régulation permettant de ne verser ni dans l'un ni dans l'autre. Elles évitent de tomber dans ce qui serait l'inverse de la peur, ce qui se signale justement par l'absence de peur, à savoir le système, la certitude, le stéréotype, la bêtise. Tout ce qui est récupéré par la culture ne fait pas peur. Et on peut ajouter que ces peurs sont qualifiables, qu'elles soient sociales ou métaphysiques, hein, elles sont qualifiables. On peut les caractériser, les renvoyer à d'autres. En gros, on pourrait dire qu'elles dessinent le territoire des névroses. Il y a des antidotes aussi à ces peurs. Certains de ces antidotes ne peuvent être aucun secours, dans la mesure où ils constituent des repoussoirs, des solutions impossibles, ainsi par exemple de la bêtise, qui offre un certain confort, mais assorti de vulgarité. Alors bien sûr, au commencement, en révélant une différence, la bêtise présente un certain pouvoir de fascination, et donc peut apparaître comme un antidote. Mais très vite, sa vocation de sirène s'éteint et ne reste du coup qu'une forme de confort bourgeois ou, en d'autres termes, une place de père douillettement occupée. Il y a tout un travail, je vais insister là-dessus parce que ça va vous paraître étrange dans la suite, mais il me semble qu'il y a tout un travail chez Barthes, et on va le voir dans la suite, pour ne pas assigner la peur à l'absence du père, en tout cas de ne pas mettre la peur à la place du père, malgré la tentation que pourrait suggérer la paronomase en français. Et cette place de père douillettement occupée, une voix, je cite, hein, « une voix vient plutôt à la place du père qui m'a manqué. C'est comme si je découvrais avec effroi, en le retrouvant, un père vulgaire. » Voilà pour la bêtise. C'est un texte d'un entretien. L'euphorie de la bonne place, hein, où le négatif glisserait comme sur une vitre, et le don de la bêtise, qu'il devient donc impossible de contredire. Et comme le dit Barthes dans la discussion qui suit l'intervention de Françoise Gaillard à Cerisy, précisément intitulée « Qui a peur de la bêtise ?», la seule preuve que nous puissions nous donner que nous ne sommes pas bêtes, c'est d'avoir peur de la bêtise. C'est la seule preuve qui soit à notre disposition, et encore, elle n'est pas suffisante. Ainsi, la bêtise serait l'antidote à ma peur, mais comme j'ai peur de la bêtise, il m'est impossible de soigner le mal par le mal. Il faut aller chercher ailleurs le remède, dans des formes élevées de dépassement de l'intelligence, dont la bêtise serait la forme basse. La sortie du système institue ce dépassement, mais là encore, comme elle est abandon de la protection, elle implique l'entrée dans la peur. Elle implique aussi l'entrée dans la peur. Pourtant, cette peur peut être transformée. Et Barthes insiste alors sur le rôle de Nietzsche, qui intervient donc comme entraîneur dans cette opération. Il transforme la peur, dit Barthes de Nietzsche. Il accentue, par exemple, par l'exemple même de son écriture, il accentue la jubilation d'écrire. Donc Nietzsche apparaît dans ce contexte comme, là je cite encore Barthes, un ensemenceur d'écriture. Il apparaît comme un supplément ou comme une puissance de jeu, on pourrait dire. Et c'est précisément parce qu'il nous interdit d'être nietzschéen, en ne proposant pas de système, on ne peut pas être nietzschéen, qu'il a ce rôle idéal qui est de nous permettre de jouer contre les systèmes tout faits. Mais plus qu'un antidote à proprement parler, il est plutôt, on peut lui donner le rôle, d'adjuvant dans la peur. Adjuvant dans la peur parce qu'il permet d'en faire quelque chose. Donc même si ces peurs ont quelque chose de ces peurs de quelque chose que je viens d'énumérer sont caractérisables, compréhensibles et dans une certaine mesure dépassables, elles peuvent être distinguées malgré tout. Il y a celles qui sont récupérables par le comportement ou par le jeu, par exemple la peur de relire ses livres, la peur d'être jaloux, la peur du stéréotype, qui est sans doute celle qui offre la plus grande part de jeu, ou la peur de la scène. Alors que d'autres peurs, hein, la peur d'écrire ou la peur de la mort, confrontent à la grande peur, à la peur sans objet, qui va être mon véritable objet. Là, on était un peu dans l'introduction. Puisque si la peur est un sujet, chez Barthes, hein, qui doit être travaillé et compris, c'est qu'elle est parfois sans objet. Elle n'est plus peur de quelque chose, mais peur tout court. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dérobe à la saisie. Et c'est aussi parce qu'elle confronte le sujet à l'incompréhension radicale qu'elle expose, hein, le sujet qu'il éprouve à ne plus être compris. Alors je vais partir d'un petit détail, hein, qui a presque l'air d'une coïncidence. J'ai évoqué à l'instant la discussion qui suit l'intervention de Françoise Gaillard à Cerisy sur la bêtise. Et cette discussion, donc c'est dans le colloque de Cerisy, elle se clôt par une sorte de portrait fait par Antoine Compagnon de Barthes en torero. Et pour conclure, ce portrait que Compagnon donne de lui, Barthes donne ce trait distinctif. En tout cas, précise-t-il, et c'est la conclusion de l'échange, un torero qui serait mort de peur à chaque fois. Et il ajoute, c'est peut-être le cas des toreros. Et sa propre intervention au colloque suit directement celle de Françoise Gaillard, même si c'est sans doute le lendemain. Tu te souviens ou pas ? En tout cas, dans le livre, c'est juste à la suite. Et elle s'ouvre sur le passage à la majuscule, hein, la peur avec une majuscule. Donc de la peur devant le taureau, qui est à la fois une peur de l'animalité, une peur de l'altérité massive et tapageuse, combattante du taureau, qui est encore la peur de quelque chose. On est passé à la peur majuscule, qui ne peut tenter de se saisir que par conjecture, où s'exprime un lieu qu'il est impossible de couper, hein, un cercle dont il n'est pas possible de sortir. On peut faire table rase de tout, mais on retrouvera la peur qui est à l'origine et que tout le reste avait permis illusoirement d'apaiser. Donc je relis lentement ce passage bien connu, hein, mais qui, sur lequel je vais m'arrêter assez longuement en faisant un certain nombre de remarques. Donc je le lis. À l'origine de tout, la peur, avec une majuscule. De quoi ? Des coups, des humiliations. Parodie du cogito, comme instant fictif où, tout ayant été rasé, cette tabula rasa va être réoccupée. J'ai peur, donc je vis. Une remarque. Selon les mœurs d'aujourd'hui, il faudrait une éthologie des intellectuels, on ne parle jamais de la peur. Elle est fort close du discours, et même de l'écriture. Pourrait-il y avoir une écriture de la peur ? Placée à l'origine, elle a une valeur de méthode, d'elle part un chemin initiatique. Donc je vais faire un certain nombre de remarques, il y en a quatre, plus ou moins détaillées, autour de cette citation. Alors, première remarque, à l'orée de son intervention au colloque dont il est précisément le sujet, ce paragraphe peut être entendu comme un métadiscours, une forme de captatio où Barthes dit « j'ai peur de prendre la parole, j'ai peur d'être là devant vous, j'ai peur de l'image que je vais donner », en parlant de l'image, hein, le texte s'intitule « l'image ». J'ai peur des images que vous donnez de moi, d'ailleurs il reviendra sur ce point dans les conclusions du colloque. L'origine est donc aussi l'origine du discours. À l'origine de tout, c'est aussi l'origine du discours. Alors ce n'est peut-être pas la façon dont on entend la première occurrence, hein, quand on entend à l'origine de tout la peur, mais c'est certainement aussi la façon dont on entend la seconde occurrence du mot origine. Hein. Placée à l'origine, elle a une valeur de méthode. Alors comment comprendre cette méthode ? Sans doute comme une conscience aiguë du semblant, le risque de prendre la parole n'a d'égal que la conscience que cette parole fera retrouver le risque à l'autre bord. Deuxième remarque, c'est une remarque à propos d'un motif qui est récurrent, hein, depuis le plaisir du texte, et qui est celui de la censure de la peur dans la culture et la société moderne. Donc ça, c'est vraiment aussi un motif vraiment récurrent chez Barthes. Par exemple, dans Le plaisir du texte, il écrit « Elle est le laisser pour compte », hein, il parle de la peur, « Elle est le laisser pour compte de toutes les philosophies. Seul Hobbes, je crois, la seule passion de ma vie, a été la peur. La folie n'en veut pas, sauf peut-être la folie démodée, le hors-là, et ceci interdit à la peur d'être moderne. » Ou encore, on trouve dans un entretien de 1978, « Les hommes ont de très grandes peurs, il y a de grandes peurs de civilisation. Celles-là sont à peu près étudiées et approchées par les historiens, mais le fond de peur qui est dans l'homme, le fond d'effroi, le fond de menace qui est dans tout homme, subit une sorte de censure. Les hommes reconnaissent difficilement qu'ils ont peur, qu'ils sont dans un état permanent de peur. » Il y a d'autres phrases qui vont dans le même sens. Donc cette censure de la peur, qui est à la fois une autocensure chez chacun et une grande censure collective, n'est pas une invention de Barthes. C'est vrai que seul Hobbes, dans la philosophie, travaille à partir de la peur de manière extensive. Je vais revenir sur ce point. Et il y a, dans la pensée moderne, un fond sans doute de rousseauisme qui préfère penser le lien que s'arrêter devant le vide et la coupure. La troisième remarque porte sur la parodie du cogito, hein, mais qui va au-delà un peu de la parodie. Je vais essayer de le montrer. « J'ai peur, donc je vis ». Et qui renvoie à l'idée que la peur vient en naissant, donc. Et c'est sur ce point que je vais insister un petit peu. Puisqu'elle vient même, hein, et Barthes développe cette idée ailleurs, de ce qu'on appelle la néothénie des êtres humains. Alors cette thèse, hein, qui a été développée en particulier par l'anatomiste hollandais Louis Bolk dans Le problème de la genèse humaine, cette thèse est reprise par Lacan dès les années 30, hein, ça a été beaucoup montré par Dany Robert Dufour, mais elle connaît un grand développement, enfin disons un développement popularisé, dans les années 60-70, en particulier avec le livre de Desmond Morris, qui est traduit en français en 68, Le singe nu. Donc cette idée d'un caractère néothénique au sens large de l'être humain, donc avant la néothénie, ça concernait que des caractères biologiques secondaires, caractérise donc l'être humain par un retard de développement, un caractère inachevé, qui le met dans un état d'intense fragilité initiale. Ce que Barthes souligne dans l'entretien que je viens de citer déjà, en rattachant la peur à ce trait du développement anthropologique. De tous les animaux, dit-il, ce qui définit l'homme, c'est que c'est un animal qui naît immature, qui naît prématurément, et il naît par conséquent en état d'insécurité totale. Le nourrisson qui vient de naître n'est protégé par absolument rien, au contraire de l'animal qui se protège très vite, qui naît déjà protégé. Donc là, il reprend la thèse basique, banale, telle qu'elle circule partout, de la néothénie. L'homme naît donc avant terme, c'est ça, et c'est pour cela qu'il est fondamentalement dans un état de peur. De ce fait, évidemment, tout le développement de la société humaine vise à compenser cette peur native de l'homme. L'éducation, les rapports des parents ont un rôle de protection. Ainsi, on peut dire que le défaut de nature qui caractérise l'être humain implique un relais de la culture ou de la technique, bien sûr, capable eux aussi, comme le soin parental, d'apaiser et de réduire la peur. Or, et cela, Barthes le sait peut-être, hein, parce que ça apparaît dans tous les textes sur Hobbes ou autour de Hobbes, il se trouve que Hobbes attribue sa passion de la peur à sa prématurité. Sa naissance avant terme n'est pas une image, elle n'est pas seulement la condition de tous les hommes. Le 5 avril 1588, selon le récit qu'il en fait, même s'il n'était pas tout à fait là, il est bel et bien né prématuré, encore plus fragile, à cause, dit-il, d'une grande peur de sa mère, apprenant la nouvelle de l'arrivée de l'armada espagnole sur les côtes de Grande-Bretagne. L'anecdote se trouve dans l'autobiographie en latin et en vers, hein, qu'il a traduite en anglais, Mais je vous donne la version latine parce qu'elle est assez extraordinaire. C'est pas pour faire de la cuistrerie, mais... Donc, ainsi, c'est ma mère conçue dans la crainte. Je vous lis pas tout. « Ut pareret geminos meque metumque simul. » Meque metumque simul, ce qui donne dans la traduction anglaise « That she gave birth to two twins, myself and fear. » Elle a donné naissance à deux jumeaux, la peur et moi. Enfin, en latin, ça fait quand même meque metumque. Donc la gémellité de la peur et du moi est assurée aussi dans la langue. Donc la peur et moi sommes nés jumeaux. Donc liée à la mère, la violence est aussi congénitale. Ou la peur est congénitale, gémellaire même. Et bien sûr, c'est un récit de Hobbes, puisque la nouvelle, on pourrait dire, elle était aussi prématurée, puisque l'armada n'a pas été vue devant les côtes de l'Angleterre avant le 29 juin de cette année 1588. Hobbes est né le 5 avril. Mais il se trouve que c'est bien le récit qu'il donne pour expliquer sa passion de la peur, et qu'il la situe bien, donc, à l'origine de tout, pour reprendre l'expression de Barthes. Alors je vais revenir à Hobbes dans un instant. Une dernière remarque m'invite à revenir sur la valeur de méthode en italique attribuée à la peur. En la reconnaissant comme nature, on se défendrait et des pièges de la nature et de ceux de la culture. De ceux de la nature en tant que celle-ci serait une identité ou une essence. Si la nature est coupure et vide, alors on ne peut pas en faire une qualité. De ceux de la culture qui sont censés être des artifices pour nous guérir de cette peur, mais qui nous laisseront aussi démunis devant la mort qu'on l'a été en naissant. Cette valeur de méthode est bien celle de la lucidité, qui fait voir la violence partout, à l'origine, au terme, et dans les moyens élaborés pour la recouvrir ou s'en accommoder. Alors, quand apparaît chez Barthes cette obsession de la peur majuscule, cette idée qu'elle est à l'origine de tout et qu'il faut la prendre en compte en vivant, en écrivant. Alors, on pourrait penser qu'elle apparaît au moment du plaisir du texte, au moment de la fameuse épigraphe de Hobbes, lorsque Hobbes, effectivement, devient une sorte d'accompagnant majeur, c'est à ce moment-là. Mais ça n'est quand même pas le cas, hein, ce que m'a prouvé une relecture de Sur Racine hein, dans l'objectif de cette enquête sur la peur. La scène tragique est un espace de la peur, c'est un territoire de la peur, et il est présenté comme tel par Barthes. Un espace de transition, de passage même entre la peur expérimentée par l'homme racinien et la peur parlée, la peur exprimée. Et on peut tout à fait lire un paragraphe de l'homme racinien intitulé « La peur des signes » comme une préfiguration du fragment du Roland Barthes par Roland Barthes sur la peur du langage. Dans la tragédie, le héros est enfermé et sa fermeture est une peur à la fois très profonde et très immédiate, écrit Barthes, entretenue à la surface même de la communication humaine. Le héros vit dans un monde de signes et il se sait concerné par eux, mais ces signes ne sont pas sûrs. Il suffit en effet de s'arrêter à une signification pour qu'elle soit aussitôt troublée, voire démentie. Donc tout peut se révéler être un piège et l'ambiguïté peut même connaître un second degré. Donc face au signe, le héros tragique est pareil à l'homme moderne devant sa télévision. C'est le sens du fragment de la peur du langage, qui se trouve face à un langage dont il est séparé et où soudain tout ce qui pouvait paraître rassurant se révèle en même temps soupçonnable ou frustrant, que ce soit la sécurité de la distance ou l'illusion de la retraite. Seuls ceux qui n'ont pas peur peuvent évoluer comme des poissons dans l'eau dans le langage. C'est moi qui le dis, c'est pas Barthes. Donc Sur Racine porte bien une réflexion intense sur la peur, mais dont on peut dire qu'elle doit autant au phobos aristotélicien qu'à la réflexion de la psychanalyse sur l'angoisse. C'est d'ailleurs parce qu'elle s'est instituée, dit Barthes dans la préface à Sur Racine, comme un langage prêt à recueillir la peur du monde, que la psychanalyse est conviée au banquet. Et la psychanalyse dans Sur Racine a ce statut d'avoir pris en charge cette peur, avoir recueilli, dit Barthes, la peur du monde. Et évidemment, il renvoie aussi au phobos aristotélicien. Mais du coup, si elle est bien à ce titre un élément central donc, de la poétique, la peur n'est pas au départ d'une politique. C'est le cas chez Aristote, puisque la peur est bien là dans la poétique, mais pas dans la politique, puisque la politique, elle, repose bien sur le lien. Alors le recours à Hobbes va changer la donne, c'est certain, même s'il s'agit que d'une citation, ça va changer la donne. Alors, j'ai cherché à savoir, c'est un réflexe de biographe, où Barthes avait prélevé la citation. S'il citait de première ou de seconde main, cette phrase de Hobbes. J'ai d'abord fait l'hypothèse de la seconde main, en pensant qu'il l'avait peut-être trouvé chez Sartre, mais je n'ai rien découvert de tel, alors j'ai évidemment pas de certitude, parce que j'ai pas tout relu, j'ai pas eu accès à tout non plus. Alors ma seconde hypothèse, ça évidemment, elle a été suscitée par le fait que, juste après avoir parlé de Hobbes, Barthes parle de bataille. Le fait qu'il cite bataille donc dans le paragraphe sur la peur, puisque donc je vous rappelle qu'il cite deux fois la phrase de Hobbes dans le plaisir du texte, la seule passion de ma vie a été la peur, il la cite en épigraphe, et puis dans un paragraphe sur la peur. Et dans ce paragraphe sur la peur, il cite bataille en même temps. Et donc je me suis dit, peut-être que du coup, c'est chez Bataille qu'il a trouvé cette phrase. Et en même temps, alors je ne sais pas si c'était un signe contraire ou un signe favorable, dans Roland Barthes par Roland Barthes, il associe de façon très ambiguë le nom de Bataille à la peur, parce qu'il le refamiliarise par la peur. Je vous rappelle aussi ce passage qui s'intitule, c'est le fragment qui s'intitule « Bataille, la peur ».« Bataille, virgule, la peur ». Et où il dit, donc je quitte un tout petit moment le plaisir du texte, je vais y revenir, pour aller vers Roland Barthes par Roland Barthes, parce que dans le plaisir du texte, il associe quand même bataille à la peur, puisqu'il il le cite juste après avoir cité la phrase de Hobbes. Dans Roland Barthes par Roland Barthes, il associe bataille à la peur, puisque le titre c'est bataille, la peur, mais vous allez voir ce qu'il dit. Donc écoutez bien. Bataille en somme me touche peu. Qu'ai-je à faire avec le rire, la dévotion, la poésie, la violence? Qu'ai-je à dire du sacré, de l'impossible? Cependant, il suffit que je fasse coïncider tout ce langage étranger, c'est une parenthèse, étranger, avec un trouble qui a nom chez moi la peur, pour que Bataille me reconquière. Tout ce qu'il écrit alors me décrit, ça colle. Alors, l'opération de refamiliarisation par la peur est très osée ici. Plus j'ai avancé dans ce commentaire, plus je m'en suis rendu compte. La langue de Bataille lui est étrangère, dit-il, mais s'il la traduit, la pensée convient et adhère. Et c'est manifestement l'impossible que Bataille traduit par le mot peur. Et les deux notions, d'ailleurs, chez l'un et chez l'autre, ont à voir l'une avec l'autre. Il s'agit bien, dans les deux cas, d'une déchirure ou d'une coupure et d'une puissance en même temps. Pourtant, et c'est là que bon, c'est pas tellement étonnant pour vous tous ici qui connaissez bien Barthes, la peur... Enfin, Barthes pratique une forme de déni ici, parce que la peur fait bien partie du vocabulaire de Bataille. Elle n'est pas du tout absente de l'œuvre de Bataille, la peur. Il ne donne pas le même nom, lui, à l'impossible et à la peur. Et en particulier, dans Le Coupable. Le Coupable, c'est un texte sur la peur, et le terme revient constamment. Donc dans Roland Barthes par Roland Barthes, dans ce paragraphe, Barthes choisit d'oublier ce lien de bataille à la peur, mais il ne l'oublie probablement pas dans le passage du plaisir du texte, où il convoque Bataille juste après avoir cité Hobbes. Bon, je vous cite juste des phrases du début du coupable, pour que vous en soyez conscients. « C'est la peur que je veux et que je recherche », écrit Bataille. « La peur qui ouvre un glissement vertigineux, celle qui atteint l'illimité possible de la pensée. » Et dans le coupable, il veut vraiment substituer à un esprit système, ou à la recherche de la vérité par la philosophie, la recherche de la vérité par la peur. C'est explicitement dit. Et c'est ce qu'il fonde dans le coupable, c'est une véritable anthropologie de la peur, à la jointure, parce que la peur est à la jointure de ce qui définit l'humain. Et il dit aussi quelque chose de très intéressant dans ce début du coupable. Il dit que « j'ai peur » est une attitude qui s'éloigne et qui doit donc être restaurée. Donc cette idée d'une censure de la peur vient aussi en droite ligne de la réflexion de Bataille, ou en tout cas est un point commun entre la réflexion de Bataille et celle de Barthes. Mais chez Bataille, cette peur est spécifiée, enfin plus ou moins, on peut dire, on peut discuter, puisque c'est bien la peur de la mort qui définit l'humain et permet de le penser. Mais comme chez Barthes, c'est une peur sans objet. Je cite encore le coupable parce qu'on entend le texte sur l'image que je vous ai fait entendre tout à l'heure. La peur, oui, la peur, mais la peur de quoi ? La peur de quoi ? Donc c'est exactement la même phrase dans l'image. C'est encore l'introduction au coupable. Et il ajoute, ces batailles, la réponse emplit l'univers, elle emplit l'univers en moi, évidemment la peur de rien. La peur de rien. Qui est sans doute, pourrait-on dire, encore quelque chose. Alors ce qui distingue Barthes ici, c'est qu'il n'en explore pas, en tout cas Barthes n'explore pas, ou seulement partiellement, la dimension anthropologique de la peur. Il en retient la dimension affective, le trouble, la puissance sur le jeu, sur le moi. Et c'est pour cela qu'il ne cherche pas à lui donner des équivalents, ou à la rapprocher d'autres notions pour la caractériser, comme le fait Bataille avec l'impossible. Ce que va faire Bataille, c'est qu'il va travailler la peur à côté d'autres notions qui vont permettre de la déplier, de la comprendre. Chez Barthes, c'est ce que précisément Barthes ne fait pas, et qu'il refuse aussi en traduisant l'ensemble du vocabulaire de Bataille sous le syntagme de peur, sous le terme de peur. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, j'espère que j'ai été claire, c'est qu'en fait c'est une retraduction. C'est-à-dire que Barthes semble traduire Bataille dans son vocabulaire, en disant tout ce vocabulaire du sacré, de l'impossible, etc. Moi je le traduis par peur et ça me va. Mais en fait, il retraduit Bataille, qui s'est lui-même traduit en déplaçant la peur du côté de l'impossible, du sacré, etc. Ce n'est pas donc la traduction ne va pas forcément dans le sens qu'on avait cru au départ. Ce n'est pas Barthes qui retraduit l'impossible et le sacré par la peur. C'est parce que Bataille avait traduit qu'il faut le retraduire, le ramener à l'origine, la peur. Et de ce fait, reste dans le titre du fragment le nom polémique de Bataille comme équivalent de la peur. Bataille, la peur. Alors, c'est aussi parce que Barthes s'intéresse moins à ce que la peur fait à l'homme, ce qui est le propos anthropologique de Bataille, qu'à ce que la peur fait à soi, qu'il choisit la phrase de Hobbes, qu'il place en exergue au plaisir du texte, et dont il, je dois bien dire, il est devenu un marronnier critique de dire qu'elle est énigmatique. C'est à peu près partout que j'ai lu que c'était une phrase énigmatique. Alors, tout le monde le dit, Françoise Gaillard, Éric Marty qui enfonce le clou même dans sa préface, puisque je vous lis, parce que c'est intéressant, on en parlera. Le mot « peur », écrit-il, « qui figure si étrangement dans la mystérieuse épigraphe de Hobbes », et qui parle ensuite de fragments sibyllins à propos du paragraphe du plaisir du texte sur la peur. Donc cette phrase de Hobbes, elle se trouve non pas dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, à savoir l'autobiographie en vers, mais une autobiographie en prose de Hobbes, qui est un texte donc distinct. Et je me suis mise à penser, après ce détour par Sartre et par Bataille, qu'en fait, Barthes l'a trouvé chez Hobbes directement, ou bien dans les parages de Hobbes. J'ai fait une petite enquête donc, dans les éditions du Léviathan, en français, qui n'a pas été extrêmement concluante. J'avais grand espoir d'une... La première traduction intégrale du Léviathan en français, elle est très tardive, hein, puisqu'elle date de 1971. C'est la première traduction par François Tricot. Avant, il n'y avait que des éditions partielles du Léviathan. Donc, j'imagine, j'ai pas tellement de preuves encore, que cette traduction a dû faire événement, puisque c'est la première traduction intégrale du Léviathan. Néanmoins, j'ai lu intégralement et avec soin la préface de cette édition de 71 et la phrase ne figure pas dans cette introduction. Et elle n'est pas non plus dans le Léviathan, puisqu'elle est dans une autobiographie qui n'a aucune chance que Barthes ait lu, pas traduite. Et j'ai regardé dans une autre édition partielle, plus ancienne du Léviathan, une édition 1919, quand c'est la seule qui était en cours avant cette traduction 1971. Et il n'y a pas non plus la phrase. Il n'y a pas non plus cette phrase de l'autobiographie. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui sait d'où vient cette phrase. Une de mes hypothèses, c'est que... Elle est rapportée par un critique qui parle de cette traduction. Ou qu'en tout cas, si j'appelle ça les parages de Hobbes, c'est que on trouve ça dans un texte sur Hobbes, probablement paru à l'occasion de cette publication, puisque bon, ça, les dates coïncident assez bien. Hein, plaisir du texte, 72, enfin, publié en 73, bon, c'est écrit en 72, la sortie du livre en 71. Donc l'anthropologie politique de Hobbes, alors ça, Tricot insiste beaucoup là-dessus, hein, est entièrement dominée par la peur. Hein, et la plupart du temps, c'est expliqué par les causes profondes d'une vie entièrement régie par la peur. Donc il y a l'anecdote qui est tout le temps rapportée, là pour le coup, elle est dans toutes les préfaces de la mère qui a peur de l'armada, ça c'est vraiment tout le temps présent. Mais aussi beaucoup d'autres peurs, hein, donc peur lorsque son père prend la fuite en les abandonnant, peur de l'assassinat après la chute de Charles Ier Stuart, qui le conduit en exil. Il l'écrit d'ailleurs dans cette autobiographie. Il fut le premier de ceux qui prirent la fuite. Et... Je vous renvoie à un article assez fort de Ginsburg sur cette peur de Hobbes, hein, qui, c'est un article qui s'intitule « Peur, révérence, terreur », et qui dit qu'on se tromperait, je cite Ginsburg, « si l'on voyait dans cette évocation de la peur la confession d'une faiblesse personnelle ». Hobbes, écrit Ginsburg, fut un penseur audacieux jusqu'à l'insolence, enclin à la provocation et à la dispute. Par cette remarque, donc la seule passion de ma vie a été la peur, il entendait plutôt revendiquer avec orgueil la décision de mettre la peur au centre de sa philosophie politique. Ces causes profondes qu'il avance le convainquent que l'affect qui explique la formation du pacte social, c'est la peur. C'est parce que les hommes ont peur qu'ils confient l'autorité souveraine au Léviathan, qui aura le monopole de la violence pour les protéger contre la peur. Alors Barthes n'en fait pas plus une politique qu'une anthropologie, mais on peut dire qu'il accompagne sa citation d'une même audace provocatrice, d'un orgueil qu'on pourrait comparer aussi, de mettre la peur au centre, alors que, dit-il, elle est clandestinité absolue. Plus il insiste sur la censure, la clandestinité, plus à rebours son attitude apparaît comme audacieuse. Puisque « j'ai peur » est une phrase que personne n'est prête à avouer ou à reconnaître et qu'elle fait l'objet d'une censure. La proximité de la jouissance et de la peur, avec dans une parenthèse la suggestion d'une identité possible entre les deux, fait partie de cette audace. Donc la peur détermine l'écriture, elle coexiste avec elle, mais elle ne peut pas s'écrire. Mais qui pourrait dire « j'écris pour ne pas avoir peur » ? Qui pourrait écrire la peur, ce qui ne voudrait pas dire la raconter ? La peur ne chasse, ni ne contraint, ni n'accomplit l'écriture. Par la plus immobile des contradictions, toutes deux coexistent, séparées. C'est dans le plaisir du texte. Donc le tremblement couvre la peur, enjoint l'écriture, mais ne la produit pas. Pas plus que l'écriture n'apaise le tremblement. Seul le plaisir, par sa modestie, peut provoquer des formes d'apaisement. Je cite Barthes, « il s'accompagne toujours ou est défini par un sentiment de sécurité profonde. La condition première du plaisir, c'est la sécurité. » D'où, et c'est ce que je vais évoquer maintenant, la tension qui existe fortement entre la peur et ce qu'on peut appeler la langue maternelle. On l'a vu avec Hobbes en particulier, c'est très clair chez lui, mais c'est vrai au-delà de lui. La mère, en libérant l'enfant, le jette dans la peur. Mais elle est aussi, par son affection, sa protection, le seul remède à cette grande peur, la seule à pouvoir le protéger de ce qu'elle a, malgré elle, infligé. Donc on peut revenir au cogito, à la parodie du cogito, « j'ai peur, donc je vis », en disant que la peur est évidemment au centre de la relation à la mère. Même si la retraite avec la mère, la vie avec la mère, reste le seul antidote à la peur. Donc on doit s'arrêter maintenant sur cette note du journal de deuil, où la peur est plus qu'avec une majuscule, puisqu'elle est entièrement en majuscule. Peur, les quatre lettres sont en capitale. Peur toujours affirmée et écrite comme centrale chez moi. Avant la mort de Mam, cette peur, peur de la perdre. Et maintenant que je l'ai perdue, j'ai toujours peur, toujours en majuscule. Et peut-être plus encore, car paradoxalement, encore plus fragile. D'où mon acharnement à la retraite, c'est-à-dire à joindre un lieu intégralement à l'abri de la peur. Donc cette utopie d'un lieu intégralement à l'abri de la peur est en partie réalisée ou a en partie été réalisée avec la mère, même s'il reste en lui une peur de la peur qui ne peut s'extirper. En ce sens, on pourrait parler de phobophobie chez Barthes. Ce lieu intégralement à l'abri de la peur est en partie réalisé aussi, bon, sans doute dans une moindre mesure, dans le texte de plaisir. Et en ce sens, le plaisir du texte met en œuvre à son tour, on peut le dire, cette langue protectrice ou voluptueuse. Mais la plupart du temps, la peur est la plus forte. Peur d'être en vue, peur que la protection disparaisse, peur de la perdre, et maintenant peur de quoi, demande Barthes. Oui, là, ça, c'est une citation. Et maintenant peur de quoi, demande Barthes. C'est toujours cette même ritournelle. Donc, ce qui est toujours là, c'est la grande peur originaire que rien ne vient apaiser. Et seuls des rituels, dont on espère une espèce de force magique, peuvent permettre d'avancer. Dans la même entrée du journal de deuil du 6 octobre 78, exorciser cette peur en allant là où j'ai peur. Lieu facile à repérer grâce au signal d'émotivité. Et pour finir, cette idée que l'œuvre ne pourra, donc c'est la fin de cette entrée du 6 octobre, que l'œuvre ne pourra se finir que dans l'ouverture, dans le dépli, dans la saisie de la peur. Avec cette remarque en bas de la fiche entre crochets, texte qui devrait finir sur cette fiche, sur cette ouverture, entre parenthèses, accouchement, défection, de la peur, avec un grand P. Le terme d'accouchement permet évidemment de lire ce qui relie la peur à la mère, hein, comme si l'on accouchait toujours que de la peur. Mais derrière cette note se lit aussi le projet de l'œuvre conduite par une écriture non séparée du monde, celle qu'il reconnaît par exemple dans le haïku. Une écriture débarrassée du code, débarrassée des maîtres scolaires, et qui peut, bon, ça je l'ai dit ailleurs donc je ne vais pas le reprendre, rejoindre l'idée de langue maternelle telle que Barthes peut l'imaginer, c'est-à-dire porteuse de la bienveillante neutralité de la mère, jamais oppressante, et aussi de sa noblesse. Et je renvoie ici à l'analyse que j'avais faite de cette phrase de la préparation du roman, hein, où à propos du rythme, c'est aussi à propos du haïku, à propos du rythme comme espace d'apaisement du corps, il dit du rythme qu'il intègre le corps à une nature pour faire cesser la séparation, le désevré. Donc l'œuvre est liée non pas au désœuvrement, mais à ce désevrage, non pas au désœuvré du désœuvrement, mais au désevré du désevrage, qui répare finalement la coupure et qui du coup par là peut rejoindre le désœuvrement de l'écriture. Et tout cela peut nous faire trouver en fin de parcours, hein, je vais terminer là-dessus, la liaison de la peur et du neutre, qui est peut-être exactement l'incompris de la biographie. Pourquoi, comment plutôt se formule-t-il, et pourquoi ne pouvais-je pas le comprendre? Alors on va s'arrêter sur un dernier passage que j'emprunte cette fois au cours sur le neutre. Alors en apparence, le cours sur le neutre privilégie le terme d'effroi. En tout cas, c'est le titre d'une séance et le terme revient très souvent. Au terme de peur, hein, donc on a effroi, terreur, plus que peur. J'avais d'ailleurs le projet de distinguer l'emploi de ces différents termes chez Barthes. Par exemple, la peur avec l'angoisse. Dans le plaisir du texte, il dit « la peur n'est pas l'angoisse ». Ou la peur avec l'effroi, hein, qui est plus proche de ce que je disais tout à l'heure à propos du phobos antique. La peur avec la terreur. Alors, j'ai pas eu le temps de mener cela jusqu'au bout, hein, mais cela reste en projet avec, pour ligne directrice, justement cet article de Ginsburg que j'évoquais tout à l'heure, qui repère une distinction très forte chez Hobbes entre fear, peur, anxiety, inquiétude, et awe, crainte, terreur. Et c'est une réflexion de Ginsburg sur Hobbes, mais qu'il relie au présent et au nom donné au bombardement de 2003 sur Bagdad, hein, qui s'intitulait, dans une expression qui était empruntée à Hobbes, hein, opération Shock and Awe. Et donc, cette réflexion de Ginsburg, elle m'intéresse parce que chez Barthes, la distinction entre ces termes est aussi très sensible, même si elle est beaucoup moins formalisée, bien sûr. Et elle peut aussi nous aider à penser la violence de notre présent. L'effroi, on pourrait pour aller vite, hein, mais il faudrait pousser plus loin cette enquête, c'est la peur dite, hein, à laquelle on reconnaît sa part d'imaginaire. C'est très clair dans le cours sur le neutre. Et puis, après la séance sur l'effroi, revient la peur dans un paragraphe intitulé « La prière » qui suit juste la séance sur l'effroi et qui suit justement la distinction que fait Barthes lui-même entre angoisse et effroi. Et là, donc, si on changeait complètement de sujet, on passe de l'effroi à la prière, et ce paragraphe sur la prière s'ouvre sur cette remarque. Peut-être fait-il partie du neutre de reconnaître la peur. Ne pas la censurer verbalement, très rare chez nous. On retrouve la ritournelle de « c'est toujours censuré », « civilisation machiste, point d'honneur à ne pas montrer sa peur ». Moi-même, ajoute-t-il, je ne montre pas mon effroi, j'ai l'air calme, on m'en fait parfois une sorte de reproche. On ne sait pas quel pathos il peut y avoir derrière une voix. Par ce sombre dimanche 21 août 1974, émotion aux larmes d'écouter le quatrième acte de Péléas. Peut-être le fantasme persistant du roman à écrire implique-t-il ceci, puisque sans carapace, invisible à quiconque, envie d'un espace d'écriture où ce pathos cesserait d'être clandestin, le roman le mettrait entre guillemets. Le neutre et la peur, donc, ont partie liée, comme la peur et la mer, le neutre et la mer. Et c'est un phénomène que je trouve finalement, à mon tour, étrange, hein, que cette liaison mer, neutre. J'ai dit que, voilà, qu'il fallait pas tomber dans le piège et je l'ai fait. Quelque chose reste énigmatique et incompris. Et j'en viens à la fin et qui est aussi le début en précisant, j'avais dit que je le ferais, que l'intuition de cette conférence m'est venue lorsque j'écrivais en août dernier un texte sur les deux derniers livres de Pierre Guyotat, Joyeux animaux de la misère 2, donc Par la main dans les enfers, et Humain par hasard. Et je voudrais terminer en disant qu'il m'a fallu le détour par Guyotat pour comprendre que je pouvais tenter de comprendre cela chez Barthes, parce que Guyotat met aussi la peur au principe de son œuvre, et que cette œuvre est faite. Et qu'il a pu répondre à l'interrogation de Barthes sur la possibilité d'écrire la peur. La peur est en effet aussi chez Guyotat le lieu même de la contradiction. C'est elle qui met en marche le langage, et c'est elle aussi qui promet l'alliance d'une extrême sensibilité, d'une très grande empathie, mais aussi d'un désir d'œuvre, d'une forme d'intelligence bâtisseuse. Alors cette empathie, on la lit évidemment très clairement dans Humain par hasard, hein, qui est un recueil d'entretiens dont maintenant Guyotat accompagne régulièrement ses textes. Par exemple, lorsqu'il parle de la vie intérieure des êtres qu'il croise dans le métro, de la rapidité extrême avec laquelle il ressent ou il vit ce qu'il voit, hein, qu'il appelle la vrille, hein, ou encore de sa sensibilité à la nature dans toutes ses manifestations. Je le cite, « Je vis la vie de ce qui est en face de moi. Il peut s'agir d'un chien, d'un animal, d'une chose. Je vois une phrase dans un journal et aussitôt je fais en quelques secondes une trajectoire. C'est ma vie et cela ne se voit pas forcément. » Mais cette empathie, on la vit encore beaucoup plus fortement et violemment, hein, on pourrait dire par tous les pores de la peau, lorsqu'on fait l'expérience de Par la main dans les enfers. Les formes de souffrance, les formes de violence ne sont pas analysées, elles ne sont pas dites, mais elles sont dépassées par le théâtre d'un autre monde où un ordre tout différent est proposé. Je cite Guyotat, « Je ne peux pas laisser quelqu'un en dehors du monde, c'est impossible. Je veux que tout le monde soit réuni dans le même espace de miséricorde. » Et inversement, c'est parce que Pierre Guyotat ne s'assigne aucune place qu'il peut devenir lui-même ce théâtre et en faire le don dans son œuvre. Il peut à la fois le créer devant lui et en être, inventer un peuple et en être, lui appartenir. C'est aussi ce vers quoi tend Barthes dans ce fragment sur le neutre que je viens de lire, et ce qu'il éprouve dans Journal de deuil. Le moment exact où se relient la peur et l'empathie, version moderne, désacralisée sans doute du couple terreur et pitié, de l'Antiquité, qui permet d'établir la liaison entre la peur, la mer et le neutre, et enfin de faire œuvre avec. Voilà, je vous remercie. C'est fini.